Presse, une émission produite en synergie par Soi Média, la radio publique africaine, la radio Inzamba et la radio télévision Renaissance.
Le Club de la Presse offre aux professionnels des médias et aux invités un espace de débat et d'analyse des nouvelles nationales et régionales.
Cette émission est aussi un cadre d'expression à l'autocritique et à une analyse sans complaisance du travail des journalistes burundais.
Retrouvez le Club de la Presse tous les vendredis sur le www.rpa.bi ou sur le www.nzamba.org et sur la page YouTube de la Télévision Renaissance.
C'est le nouveau numéro du Club de la Presse. Bonjour chers fidèles de cette émission en synergie des radios Inzamba, RPA et la télévision Renaissance. Merci de nous avoir choisis. C'est ce vendredi que le procès d'assassinat du président Melchior Ndadaye a repris à la Cour suprême de Bujumbura. Ce procès se trouve être controversé, un procès politisé pour certains. C'est après plus de 25 ans que le crime a été commis. L'assassinat du président Melchior Ndadaye a été suivi par des tueries sélectives qui ont ciblé des Tutsis pour la plupart dans plusieurs collines du pays. Et plus tard, ce sera le conflit armé qui a pris fin avec l'accord d'Arusha de l'an 2000. Un accord qui a conclu sur les voies judiciaires à suivre pour résoudre à jamais les crimes et les massacres à caractère politique qui ont endeuillé le Burundi. Ainsi, Arusha a prévu une justice transitionnelle comme solution en passant par la commission Vérité et Réconciliation, la CVR adaptée à la situation au Burundi. Aujourd'hui, des interrogations restent posées. Pourquoi, 26 ans plus tard, le dossier refait surface? La Cour suprême s'est-elle ingérée dans les affaires de la commission Vérité et Réconciliation? La Cour a-t-elle des compétences pour instruire le dossier? Tant de questions auxquelles nous allons tenter des réponses avec nos deux invités. Il s'agit d'Alexandre Nyungeko, il est directeur de la radio Inzamba Agathe Kakawe. Bonjour Alexandre.
Bonjour Patrick.
Merci d'être là.
Merci de m'avoir invité.
Merci encore. Honorable Emmanuel Nguengourousse, c'est le deuxième invité, ancien sénateur, juriste de formation. Vous êtes aussi opposant politique. Bonjour honorable.
Bonjour monsieur.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Club de la Presse, c'est parti. Avec vous, honorable Nguengourousse, la Cour suprême use aujourd'hui de ses compétences pour instruire le dossier d'assassinat du président Melchior Ndadaye. En quoi cela pose-t-il un problème?
Actuellement, ses prérogatives n'existent plus sur ce dossier particulier, parce que la loi qui était en vigueur au moment de l'assassinat du président Melchior Ndadaye disposait que l'action publique en ce qui concerne les crimes dont il est question dans le dossier Melchior Ndadaye, l'action publique est prescrite après une période de 20 ans, n'est-ce pas? Ça veut dire que il n'y a plus possibilité de poursuivre les auteurs, malheureusement du président, 20 ans après la commission du crime. C'est ça la loi qui était en vigueur en 1981. Mmh. Et ça, c'est dans, on le trouve dans l'article 89.4 qui dit clairement que ça se prescrit en l'espace de 20 ans.
Ça veut dire que le pouvoir a consacré 20 ans de déni de justice.
Non, pas de déni de justice. Déni de justice, ça s'applique aux organes judiciaires lorsqu'ils sont saisis de dossiers judiciaires et qui ne rendent pas justice. Mais pour ce dossier particulier, la Cour suprême, les organes judiciaires burundais avaient commencé à instruire le dossier, même à condamner, n'est-ce pas? Mais à cause de la mise en application de l'accord d'Arusha, qui préconisait que ce genre de crime, qui était commis depuis l'indépendance jusqu'à l'an 2000, soit traité dans le cadre des mécanismes de justice de transition, la Cour suprême a dû abandonner ses poursuites. C'est pourquoi d'ailleurs les condamnations qui avaient été prononcées ont été annulées par la grâce présidentielle. et même des opposants ou alors des auteurs présumés, n'est-ce pas, ont bénéficié de l'immunité provisoire.
En attente, selon vous, le président n'aurait pas dû.
En attente de la mise en place de ces
pouvoirs. N'aurait pas dû utiliser ces pouvoirs pour gracier.
Non, mais c'était prévu comme tel. Mais en même temps, il devait mettre en place ces mécanismes de justice, de transition, pour qu'ils prennent en charge ces dossiers. Parce que, rappelez-vous, des dossiers de 1972, il y avait prescription aussi, de 65, même de Nega Marangala, de 91 également, ils avaient même les crimes qui se sont passés après l'assassinat de Melchior Ndadaye, sauf le crime de génocide qui ne se prescrit. Donc il fallait trouver un mécanisme qui habilite, n'est-ce pas, des pouvoirs judiciaires spéciaux pour enquêter et poursuivre et punir.
Conformément aux
conclusions de l'accord d'Arusha, qui est un dispositif presque constitutionnel. C'est une loi qui a été votée. Mmh. Et d'ailleurs, c'est une loi qui a été votée par le Parlement, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas eu... déni de justice, c'est donc en termes techniques. Maintenant, il faut dire que le gouvernement Nkurunziza a violé la loi qui l'obligeait à mettre en place le mécanisme de justice. Mmh. Et pour faire la justice pour tout le monde. Ce qu'il est en train de faire maintenant, à part que c'est contre la loi, il cherche des intérêts politiques inavoués, uniquement. Alors, la Cour suprême, je la conseille, je la conseille de se dessaisir de ce dossier. Parce que ça, c'est une exception avant d'y le droit. C'est comme ça qu'on le dit en termes juridiques. Il devait rejeter l'action télécontraduite par le ministère public parce qu'elle est incompétente.
Alexandre Niyongeko, 25 ans plus tard, il y a eu des victimes. Est-ce qu'on peut dire que les juridictions ont eu respect pour la Cour d'Arusha pour attendre effectivement les conclusions de la commission sévère pour qu'ils puissent instruire le dossier? C'est pas respect à la Cour d'Arusha que...
Je pense que ceux qui sont responsables du fait que la justice n'a pas été rendue, c'est effectivement ceux qui prennent les mesures aujourd'hui, ceux qui gouvernent. Parce que
ceux qui exécutent les lois.
Ceux qui, depuis 2005. Mais
je rappelle que le pouvoir actuel est venu 5 ans après l'accord d'Arusha.
Ben oui, il est venu en 2005, oui. c'est clair. Et je pense qu'il
a vécu. Donc il y a d'autres responsabilités des pouvoirs antérieurs.
Oui, mais qui ne le dédouanent pas. Mmh. Et plutôt, qui aurait plutôt. Ce pouvoir avait eu l'occasion de faire ce que les autres n'avaient pas fait. Et donc, depuis 2005, il aurait fallu, effectivement, mettre en place la commission vérité. Réconciliation avec le mécanisme de justice, bien évidemment. Il ne faut pas oublier le tribunal spécial pour le Burundi. Mm-hmm. Et donc, c'est maintenant ce que nous voyons aujourd'hui comme commission qu'il faudrait trouver un nom quelconque, la commission d'Aïcharie Mourouziza. À mon avis, qui n'est pas du tout cette commission-là qui était préconisée par les accords d'Arusha.
Une commission indépendante.
Parce que la commission, effectivement, devait. Il y a tout. Je n'ai pas tout en tête comment l'accord d'Arusha, mais c'était clair comment on devait mettre en place les gens qui devaient constituer cette commission et comment ils devaient être mis en place et cette composante aussi de justice. Parce que maintenant on parle de vérité et réconciliation comme par magie, oui, on dit voilà, ça s'est passé comme ça, la vérité. Et surtout que là aussi, je ne pense pas qu'on peut espérer une vérité venant de cette commission du fameux d'Aïcharie qui a toutes les responsabilités dans tout ce qui s'est passé avec le processus électoral quand il a. il a fait tout ce qu'il a fait dans le passé très récent en tant que président de la fameuse commission électorale. Et donc, voilà, je ne pense pas que maintenant des responsabilités, il faut les chercher ailleurs. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas. Ce dossier, c'est pas, ce n'est pas par intérêt pour rendre justice. C'est plutôt. Il faut voir cela dans les échéances en vue. Donc, pour montrer au pouvoir, il veut montrer que voilà, c'est nous qui parvenons à rendre justice. Mais pourquoi est-ce que tout cela? Pourquoi on a attendu aujourd'hui à la veille des élections? Pourquoi? Pourquoi attendre et avoir mis d'abord, violé l'accord d'Arusha et maintenant dire voilà, on va trouver. Et puis.
Donc vous voulez parler de la propagande qui.
Absolument, c'est purement et simplement de la propagande qui est derrière. Mais je pense bien que les gens, ils ne sont pas dupes. On n'est pas dupes. Les gens, ils voient bien. Ce qui se passe.
Exemple, comment expliquer aujourd'hui, comment faire comprendre aujourd'hui à la famille Ndada et à ses proches qu'il n'y a pas eu déni de justice aujourd'hui?
Je ne suis pas spécialiste. Hein. Je crois que Maître l'a très bien expliqué pour dire plutôt, oui, Maître Honorable Ngurutse l'a bien expliqué. On parle de déni de justice si l'affaire est dans les juridictions et que c'est pas rendu. Ouais. Donc, maintenant, je crois que les affaires là avaient été retirées parce qu'il y avait cette fameuse immunité provisoire qui était là et que effectivement le pouvoir devrait arriver à un certain moment pour l'arrêter. Mais je pense bien, les gens, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils savaient très bien, en arrêtant cette immunité, eux-mêmes, ils étaient. Parce qu'ils sont responsables.
Ça va s'appliquer contre
eux. Oui, bien évidemment. Si l'immunité provisoire était arrêtée, le pouvoir CNDD devait être poursuivi pour ces crimes à Ruta, pour ces crimes à Ugendana et partout, dans le pays où ils ont tué, où ils ont brûlé des gens, où ils ont, je ne sais pas moi, donné. De matière fécale ou de gens qu'ils arrêtaient dans les bus. Tout ça, ils sont responsables. Et ça, ce n'est pas. Je pense que les gens ne sont pas idiots. On le sait, ils le voient. Et je pense que là, maintenant, cette propagande qu'on amène aujourd'hui, personne n'est dupe. Hein. Je pense que là, la population le voit. Donc, pour à la famille de Ndadaye, je dis effectivement que personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait effectivement cette justice. Et je suis convaincu que cette justice, on l'aura. On l'aura certainement. On l'aura quand on aura un état de droit. Quand on aura un état de droit dans notre pays où on a une justice indépendante, certainement que les responsabilités seront établies et les responsables, ils seront effectivement.
Il ne faut pas compter sur la CVR d'aujourd'hui.
Non, il ne faut pas du tout compter. Moins encore compter sur le pouvoir CNDD qui est trempé jusqu'à la moelle dans les crimes, même qui se commettent aujourd'hui.
Honorable Ngurutse, si aujourd'hui la CVR évoque le principe de l'indépendance de la magistrature pour écarter toute ingérence de la Cour suprême dans les affaires de la CVR, pourquoi la CVR accorde-t-elle le crédit à la Cour suprême alors que vous évoquez la compétence de
la CVR? Je vous donne trois raisons. La première raison, la CVR, telle que mise en place par le gouvernement CNDD, n'en est pas une. Elle n'est pas conforme à celle prescrite par l'accord d'Arusha sur deux points principaux, sur sa mission. La CVR n'a pas de mission de justice. Le volet justice, on l'a, n'est-ce pas? On l'a élagué de la loi portant création de CVR. Deuxième chose, donc, il ne peut pas s'intéresser au dossier judiciaire.
La CVR.
Alors que, dans l'accord d'Arusha, il fallait connaître, on ne peut pas connaître la vérité de ce qui s'est passé sans savoir les circonstances de temps, de lieu, de quoi, de participation, ceux qui ont participé, ceux qui ont commis des crimes. Est-ce que vous pouvez savoir la vérité des crimes qui se sont passés sans s'intéresser aux personnes? Alors, Il fallait faire un tri des personnes, des premiers responsables qui vont au tribunal spécial pour être, n'est-ce pas, traduits en justice.
Pour les crimes.
Ce volet-là, le pouvoir sein de DFTT a l'a retiré de la loi portant création sévère. Deux, sa composition. C'était décrit, il y avait un profil, n'est-ce pas, des membres devant composer des personnes indépendantes, des personnes n'ayant pas trempé dans les crises, dans les crimes du passé, les crises du pays, des personnes irréprochables, voyez-vous, et qui sont convenues de commun accord, pas partisans. Mais maintenant, les membres de la Sévère, pour la plupart, sont des militants du sein de DFDT, ou alors des gens qui, n'étant pas inscrits sur les listes des membres du sein de DFDT, ont beaucoup aidé dans les crises, ont été des acteurs dans les crises du passé. N'est-ce pas? Celui-là, le président, je vous donne un exemple, celui-là. Lui, il a saccagé la loi électorale pendant deux mandats qu'il a organisé les élections. Qu'est-ce qu'il a donné? 2010, des élections fraudées. Processus électoral.
Il a prévu toutes les qualités de...
2015, la même chose. Donc, après, on lui donne... La commission. Comment il pourrait alors présider?
Il devrait être apolitique.
Celui-là, c'est un militant. D'autres membres, là, l'ancien secrétaire général du CNDFT, enfin du gouvernement, l'ancien porte-parole. Nous avons arrivé. Il est membre de la commission, imaginez-vous. Bon. Donc, pour ces raisons, il ne peut pas. Troisième chose, l'autre deuxième raison, je crois que le profil aussi, il y a des gens qui ne savent pas aussi le droit. Il y a un minimum de gens qui. Les gens qui connaissaient comme les Didas Kiganaï. Les gens qui étaient un peu... on les a retirés de la commission, le prêtre, là, Jean-Louis.
Monseigneur.
Viré rapidement.
L'évêque
Naotba. Non, mais on aurait dû...
La conduire.
Donc, ce sont des militants qui ne peuvent donc pas dénoncer des actes de leur parti politique. Non, c'est impossible. Oui.
Et pourquoi faut-il continuer à faire confiance, effectivement, à cette commission Vérité et Réconciliation pour atteindre la justice?
Nous faisons confiance au mécanisme de justice de transition tel que prescrit dans l'accord d'Auch. En réalité, le grand péché...
En tout cas, ce n'est pas moi qui fais confiance à la commission...
Pas à la commission d'Aïtchari. Écoutez, le grand péché du pouvoir d'aider, du gouvernement d'aider, c'est d'avoir, n'est-ce pas, ôté, c'est d'avoir, n'est-ce pas, donné l'immunité provisoire, donné la grâce aux condamnés et arrêté les poursuites au niveau des cours et tribunaux, ce qui était d'ailleurs préconisé par l'accord d'Arusha. Et simultanément d'avoir ôté les pouvoirs au mécanisme de justice de transition qui devait s'en occuper. Donc il a saccagé le tout, le dispositif de l'accord d'Arusha, et là il va, n'est-ce pas, selon sa bonne volonté, ses humeurs, commencer à chercher qui est traduit en justice, qui ne l'est pas traduit en justice. Comment? Je respecte beaucoup le président Melchior Ndadaye, n'est-ce pas? Mais je respecte aussi de nombreux Tutsis et de Hutus de l'opposition qui ont été tués en 1993. Pourquoi on rouvre le dossier Ndadaye et pas le dossier des autres? Non, mais il y a un rapport international qui dit qu'il y a eu génocide de Tutsis en 1993. Pourquoi il ouvre le dossier Ndadaye seulement? Pourquoi il ne l'ouvre pas pour... Encore que pour le génocide, c'est encore possible devant les cours et tribunaux du Burundi. Mais à l'époque, il n'y avait pas aussi loi, n'est-ce pas? Donc, le cadre approprié, vous allez peut-être croire qu'on est contre la justice en faveur des victimes et surtout de la famille du président Melchior Ndadaye. Non, il y a un cadre bien tracé pour poursuivre les auteurs. pour et tous les auteurs de tous les crimes du passé, pas seulement sur
celui-là. Vous dites qu'il faut élargir pour traiter tous les dossiers.
Et le faire dans le cadre approprié.
D'accord.
Autrement dit, on n'est pas contre la justice, mais comment c'est fait et les objectifs de cette fameuse justice du CNDD-FDD. C'est ça où il y a
la Cour d'Arusha avait tout prévu, n'est-ce pas?
Il avait tout prévu.
Dans tous les cas, Alexandre, aujourd'hui, la Cour d'Arusha n'est plus respectée par le pouvoir de Bujumbura. Et on ne cesse de le dire dans les journaux, et même le pouvoir en place semble ne pas le nier. Mm-hmm. Et comment aujourd'hui faut-il attendre des solutions pour cette CVR qui est issue de cet accord tomber en caducité, si je puis dire?
Il faut restaurer l'accord d'Arusha d'abord. Parce que c'est, on ne peut pas parler de cette commission en dehors de l'accord d'Arusha. Il faut d'abord qu'il y ait restauration de l'accord d'Arusha et de la constitution qui a été ici. Et alors, revenir à ces mécanismes pour les mettre en place en conformité avec cet accord. Parce que c'est comme si on dirait, voilà, il y a un chapitre de la Bible, mais je jette la Bible, mais je prends le chapitre.
Oui.
Ce n'est pas possible.
C'est ça.
Ce n'est pas possible.
Effectivement, avant qu'on entame la deuxième partie de cette émission, honorable, la CVR est chargée d'établir la vérité après enquête et renvoyer les crimes inadmissibles devant les cours compétentes. Y a-t-il aujourd'hui dysfonctionnement si la Cour suprême a déjà entamé les procès avant les conclusions de la CVR?
Non, mais je vous ai dit que la Cour suprême devait elle-même rejeter l'action du procureur général, du parquet général, parce qu'elle est incompétente. Ça, c'est une exception d'ordre public. Si la Cour suprême se déclare incompétente et reçoit l'action mise par le parquet, il viole la loi. Donc, il faut absolument renvoyer vers.
C'est un monsieur qui
vers le mécanisme de. Oui, de. Il faut.
C'est un monsieur qui est recevable.
C'est irrécevable.
D'accord. Voilà. Nous entamons donc la deuxième partie de cette émission. Nous parlons du dossier judiciaire sous instruction à la Cour suprême. Il s'agit d'un dossier, plutôt d'assassinat de feu président Melchior Ndadaye, 26 ans après. Les faits, je rappelle que nous sommes avec Alexandre Nungeko, directeur de la radio Inzamba, et honorable Ngengurutse Emmanuel, ancien sénateur. Le procès donc a repris devant la Cour suprême. Certains avocats de la défense ne sont pas là. Donc avant de revenir dans ce studio, écoutons d'abord l'avis d'Innocent Morosi. Il est directeur de la télévision Renaissance.
Il était convenu par tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société burundaise à travers les accords d'Arusha et la constitution a résulté que ces questions allaient être traitées à travers la commission vérité et réconciliation et que ceux qui faisaient partie des crimes contre l'humanité, donc imprescriptibles, seraient traités par un tribunal spécial qui serait mis sur pied pour juger les crimes ayant été déterminés comme tels par la commission vérité et réconciliation. Donc aujourd'hui, il y a cette mise en scène qu'on appelle procès. C'est strictement pour des raisons politiques. Ce n'est pas un procès, c'est une opération politique. C'est une opération politique pour un gouvernement qui est pratiquement au bout du rouleau de par tous les crimes qu'il commet dans le pays, de par l'incapacité à faire avancer le pays. Le pays est ruiné, les gens sont ruinés, les gens sont dans une misère extrême, la santé, l'éducation, l'économie, la justice élémentaire. Donc ça n'a rien à voir avec un procès. Donc les arguments juridiques que les avocats de la défense avancent sont des arguments juridiques, mais ils ne serviront strictement à rien parce que cette affaire n'est absolument pas juridique, elle est politique tout simplement. Ce n'est qu'un acte de plus pour tenter de recréer la cassure sur base ethnique dans la société burundaise. Ils ne sont toujours pas arrivés à le faire, mais ils continuent à essayer pour se faire passer pour les défenseurs de la cause Hutu. Et essayer ainsi de grappiller quelques votes lors des élections qui viendront en 2020. Mais ce n'est qu'un acte de plus pour détruire la société burundaise. Et donc, quelles conséquences? Ils vont rendre un jugement. Les malheureux qui sont au Burundi, qui sont concernés, seront traités comme ils voudront les traiter. Ceux qui ne sont pas là, leurs biens seront saisis. Nous savons tous très bien ce qu'ils visent. Ils essaient de s'approprier les biens de certains citoyens burundais, comme ça a déjà été le cas. pour certains autres qui sont poursuivis pour d'autres raisons aussi fantaisistes que le processus actuel qu'ils ont mis devant les tribunaux. C'est dit que l'accumulation de problèmes qu'ils sont en train de créer pour la société et qu'ils ne trouveront de solution qu'une fois que les Burundais auront réussi à renouer avec les accords d'Arusha et la constitution qui en avait découlé.
Voilà, c'était là Innocent Mohosi. Retour au studio, Alexandre Niungeko. Nombreux intervenants parlent d'un procès politique. Innocent Mohosi l'a épinglé tantôt. Faut-il pas s'attendre aujourd'hui à un procès de justice?
Je ne sais pas sur quelle foi vraiment on se baserait pour espérer avoir un procès équitable. Mm-hmm. D'abord, on a refusé à certains l'octroi de visa pour certains avocats qui voulaient aller participer à ce procès, ce qui est aberrant. Donc, pour moi, j'avais toujours appris plutôt la cour, le tribunal aide même à ceux qui n'ont pas d'avocat d'en avoir pour que effectivement ça se passe bien. Donc là je n'ai aucune, parce que ce n'est pas un dossier de justice. Maintenant c'est pas de la justice qu'on est en train de faire, parce qu'il y a plus de justice au Burundi. Je pense que c'est purement et simplement un dossier politique, comme tu le disais, comme on l'avait dit d'ailleurs même dans la première partie. Et donc, ce n'est pas, expliqué même ce soir, on apprend que voilà, les responsabilités ont été établies et que des peines ont été.
À l'absence
Bien sûr, parce que.
Donc, je
reste convaincu que déjà l'affaire est déjà tranchée. Il ne reste plus qu'à la.
Qu'à
la prononcer.
Donc, selon vous, l'absence de ces avocats, l'absence des inculpés, certains qui sont à l'étranger, en exil, ne peut pas constituer un blocage dans l'avancée de ce procès.
Pour eux, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce n'est pas ça qui est vraiment qui est intéressant pour eux. Parce que, bon, ces gens-là, j'avais te posé une question, mais je me retiens. Bon, je le retourne à moi. Si moi, on me disait d'aller répondre devant. Enfin, les juridictions là-bas, est-ce que j'irai pour donner ma tête pour la fois qu'on la coupe? Non.
C'est la question que
je pense poser. Je pense vraiment il faut s'attendre d'abord qu'il y ait un état de droit. On ne peut parler de justice dans ce pouvoir voyou où effectivement, le pays est dirigé par des gens qui tuent comme ils veulent, les gens, des gens qui volent comme ils veulent. Et on s'attend qu'ils puissent donner la justice.
Ça va pas. Dans tous les cas, si le parquet de Bujumbura a émis des mandats contre Buyoya, contre Busokoza, contre Kadege, il savait pertinemment que ces hommes politiques, ces anciens dirigeants du pays ne vont pas répondre effectivement à la barre, sans se reconnaissant effectivement ce qui est arrivé à l'honorable Kadege. Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas être représentés par les avocats, juridiquement parlant?
La représentation, en principe, c'est pour les affaires civiles. L'assistance, oui, pour les affaires pénales, peuvent être assistés. Mais j'apprends qu'il y a des avocats, n'est-ce pas, des accusés, et à qui on a refusé des visas. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont pouvoir trancher? À supposer que la Cour suprême était compétente. J'ai dit qu'elle n'était pas compétente. Comment est-ce qu'ils veulent? Parce que, en fait, pour pouvoir rendre justice, il faut effectivement, il faut des garanties judiciaires pour celui qui est accusé. Et de notamment être présent et se faire assister de manière valable. Maintenant, lorsque c'est garanti, être écouté, parce que sinon, le parquet, il accuse des gens absents Et comment est-ce que le... Il faut pouvoir connaître la vérité des faits qui sont à l'origine de ces infractions. L'application de la loi, on l'applique à des faits connus, bien élucidés. Et l'élucidation des faits doit avoir la participation et de l'accusateur et des accusés. Maintenant, s'il y a une partie qui est absente, comment est-ce que vous allez pouvoir rendre justice? Ça, c'est un. Deux.
Il y a juste que
quelle justice attendez-vous maintenant, n'est-ce pas, de la part de ces gens-là, confus, qui tuent les gens? Et expliquez-moi pourquoi ils ne peuvent pas être présents. Normalement, dans un pays, la justice, en fait, c'est une caractéristique d'un gouvernement démocratique.
Dans l'état de droit.
Dans l'état de droit, qui respecte la loi, qui respecte les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Mais maintenant qu'ils aient fui la mort et que maintenant on les accuse, ah, mais c'est... je pense que c'est très criminel. C'est vraiment très criminel. Après les avoir chassés, et ils vous fuient pour qu'ils ne soient pas tués, mais là vous les convoquez dans des affaires qui n'ont pas lieu d'être dans le cadre de la Cour suprême. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous ajoutez le mal au mal? Un criminel qui veut rendre justice à ce qu'il appelle des criminels. C'est incroyable. La situation
On s'imagine Kadege, ancien vice-président,
devant la justice de Nkurunziza. Parce que la justice, maintenant, elle est de Nkurunziza. Vraiment, elle est de Nkurunziza. Elle n'est pas du tout indépendante. Pour pouvoir établir les faits tels que je l'ai dit, pouvoir rendre, il faut que la justice soit le juge soit indépendant. Et ne puisse dépendre de personne d'autre. Maintenant, on sait très bien que le juge dépend du pouvoir. Le président Nkurunziza, il a dans ses mains tous les pouvoirs d'État. Donc, que voulez-vous que le magistrat puisse faire? Lui aussi sauve sa peau. Il exécute les instructions. Je sais très bien que pour ce genre de procès, n'est-ce pas, les verdicts sont dictés à partir
de la présidence.
De la présidence, ou mieux, du siège du parti au pouvoir. Là, c'est clair. Je peux vous donner beaucoup d'exemples, mais ce n'est pas nécessaire.
On s'achemine vers la fin de l'émission pour clôturer. Et quelles leçons donc faut-il tirer de ce procès, pour ce procès d'Abaye?
Non, mais ce procès poursuit des buts politiques du parti au pouvoir. Ayant constaté avec sa mauvaise gestion, sa gestion catastrophique, la dénégation des droits de l'homme, les assassinats, les crimes contre l'humanité qui pèsent sur lui, la population a commencé à perdre espoir. Et les prochaines élections, encore une fois, les prétendues élections, il risque de les perdre. Alors il est en train de caresser la corde sensible, n'est-ce pas, de ce qui caractérisait la situation en 1993 lors de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, et qui d'ailleurs lui a donné le fonds de commerce de ce qu'il est en train de vendre même la corde sensible ethnique. Mais il ne faut pas qu'il se fasse trop d'illusions, parce qu'il y en a d'autres candidats plus importants, plus représentatifs que lui et plus valeureux d'ailleurs, plus positifs que lui, si on tenait à comparer les ethnies et les choses. Donc là, c'est pour une vision politique à lui. Et il tient à tirer des gains politiques à partir de cette opération. S'il voulait la justice, ce n'est pas une question c'est pas une opération de justice qu'il est en train de mener. S'il voudrait bien la mener, il aurait mis en place les mécanismes de justice de France.
Fond de propagande.
Exactement, c'est ça.
On va clôturer l'émission, Alexandre. Aujourd'hui, Melchior Ndadaye, qui a plus tard été proclamé héros de la démocratie, on s'imagine qu'il mérite mieux que ce procès un peu biaisé, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'aujourd'hui faut-il faire? Qu'est-ce que faut-il faire aujourd'hui pour honorer sa mémoire
en tant que... Je pense que...
Il y a besoin d'un procès équitable.
Je pense que je l'avais dit. Je l'avais dit. Il faut carrément qu'il y ait restauration de la Cour d'Arusha. Mmh. Absolument. Il faut qu'il y ait restauration de la Cour d'Arusha et de la constitution qui a été ici. Mmh. Parce que la Cour d'Arusha avait prévu tous ces mécanismes-là pour sortir de ce bourbier. Parce que, figurez-vous, on venait de passer près de 10 ans donc dans la crise. Depuis 1993 jusqu'à la signature de l'accord d'Arusha. Et donc, il faut qu'il y ait restauration de cet accord, de la constitution qui a été ici, et tous les autres, peut-être maintenant, cette fois-ci, ce serait de voir ensemble comment mettre en œuvre cet accord d'Arusha, qui reste pour moi, pour moi vraiment une référence, qui reste pour moi une loi suprême qui avait. Fait que les Burundais puissent vivre en paix. Mmh. Et malheureusement, voilà,
des fous, des criminels, comment ils disent. Restaurer la Cour d'Arusha serait pour vous honorer sa mémoire.
Absolument, parce que en fait, en la restaurant, maintenant va aller en profondeur, mettre en application, notamment sur cette question de.
Comme ça, il pourrait vivre dans un procès équitable.
Absolument.
Merci beaucoup Alexandre Niungeko. Je rappelle que vous êtes directeur de la radio Inzamba Agateka Kawe. Merci de votre éclairage.
Merci de m'avoir invité aussi.
Oui, merci honorable Emmanuel pour votre participation dans ce débat.
Merci aussi.
Et c'est ici la fin de cette émission Club de la Presse. Merci à nos deux invités. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Là.
La Presse, une émission produite en synergie par 3 médias, la radio publique africaine, la radio Inzamba et la radio télévision Renaissance.
Le Club de la Presse offre aux professionnels des médias et aux invités un espace de débat et d'analyse des nouvelles nationales et régionales.
Cette émission est aussi un cadre d'expression à l'autocritique et à une analyse sans complaisance du travail des journalistes burundais.
Retrouvez le Club de la Presse tous les vendredis sur le www.rpa.bi ou sur le www.nzamba.org et sur la page YouTube de la télévision Renaissance.